Bon vendredi matin tout le monde, j'espère que ça se passe bien pour vous. On a beaucoup de choses à vous proposer aujourd'hui. On va discuter dans quelques minutes de ce que ça représente pour vous, la Journée nationale des Patriotes. C'est lundi, est-ce que c'est plus qu'un congé pour vous? Il y a aussi, bien sûr, dans l'actualité très chaude d'aujourd'hui, cette marche des jeunes, les jeunes qui vont aller dans la rue en espérant faire pression pour faire avancer la cause environnementale. C'est tout à fait dans l'actualité. Vous avez vu cette semaine la démission du maire d'arrondissement du Plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez, qui a quand même été accueilli avec, avec beaucoup d'intérêt parce que c'est un message qu'il envoyait un peu à l'instar du l'ex-ministre français de la transition écologique, Nicolas Hulot, qui aujourd'hui a décidé de porter son action environnementale ailleurs que dans la sphère politique. J'ai l'impression que Luc Ferrandez s'enligne pour faire un peu la même chose. Une chose est sûre, c'est que cette semaine, ça tombe presque bien pour les jeunes qui veulent essayer de nous faire comprendre à nous, un peu plus vieux, même que c'est important de s'occuper de notre environnement et que la planète, en ce moment, subit de grandes pressions. Il y en a qui ne croient toujours pas à ça. Moi, sincèrement, ça me perturbe qu'il y ait encore des gens qui soient climato-sceptiques. Je ne comprends pas cette approche-là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça prend au monde pour qu'ils allument et qu'ils comprennent qu'il faut absolument tous, chacun, où que nous soyons, faire un effort collectif. Alors, vous me direz si vous allez aller marcher avec les jeunes plus tard cet après-midi. Une chose est sûre, c'est qu'il y a des gens qui sont restés à la maison pour pas venir affronter le trafic que ça va créer. Mais il faut voir au-delà de la circulation. Je pense qu'il faut voir le message qui est envoyé par la jeunesse québécoise. On va en reparler donc tout à l'heure en deuxième heure d'émission. On va aussi parler du bed-in. Vous savez que le bed-in, John Lennon, Yoko Ono, il y a 50 ans, c'était ici à Montréal qu'ils se sont installés pour créer Give Peace a Chance, cette fabuleuse toune. Et voilà. Tout le monde ensemble. Elle a été enregistrée le 1er juin 69 dans une suite de l'hôtel Queen Elizabeth à Montréal, dans le cadre du second bed-in du fondateur des Beatles et de sa nouvelle épouse Yoko Ono, qui militait pour la paix. Alors, cette toune-là, enregistrée à Montréal le 1er juin, on en reparle tout à l'heure en deuxième heure. Vous me direz, s'il y en a qui étaient là, il y en a du monde qui était là, commence à être un petit peu plus vieux, mais il y en a qui s'en souviennent, puis ça a beaucoup marqué l'histoire également, l'histoire plus contemporaine de Montréal. Parlons de l'histoire un peu plus ancienne, celle-là. Lundi, c'est la Journée nationale des Patriotes, ou Fête des Patriotes, vous l'appelez comme vous voulez. Il y en a qui se disent, bon, regarde, je ne l'appelle même pas, puis appelle-moi pas, je vais être en congé. C'est plus qu'un congé férié. Je pense qu'il faut se souvenir de ce qui s'est passé à cette époque. Évidemment, ça fait longtemps. On va reparler de ça avec nos invités. C'était à l'époque, bien sûr, je vous redonne la date, 1837-1838. On parle de cette rébellion de courageux Canadiens français. Évidemment, ça dépend de quel bord on se place de la clôture. Des invités qui sont bien au courant de la chose. Gilles Laporte a même écrit un livre là-dessus qui s'intitule « Brève histoire des patriotes ». Gilles, merci d'être là.
Grand plaisir.
Je rappelle que tu es prof d'histoire au Cégep du Vieux-Montréal et chargé de cours en histoire à l'UQAM. Également, Laurent Turcot, qui est prof d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci, Laurent, d'être
là.
Bon, c'est quoi la fête des patriotes, Gilles?
Oh, ben, c'est une journée mémorielle. Il y en a dans presque tous les pays du monde. Aux États-Unis, on sait, par exemple, il y a le Martin Luther King Day. C'est essentiellement une fête qui commémore la conquête des libertés civiles. En somme, c'est une fête laïque, bien sûr, mais qui rappelle, en utilisant l'histoire, que nos droits, nos libertés, en somme, notre justice sociale, notre démocratie au sens large, ben, elle a eu des prédécesseurs, elle a eu des héros qui ont souvent tout sacrifié pour leur conquête. Dans notre cas, on a un exemple tout désigné. Ce sont ces dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui, au milieu du 19e siècle, se sont battus contre la tutelle britannique, à l'époque où on était une colonie. Et ils sont aussi battus pour des droits qu'on considère aujourd'hui comme acquis, tels la liberté d'expression, le droit pour nos élus de déterminer la ligne du gouvernement, ou bien simplement l'autonomie nationale pour un État ou pour un peuple.
Si on essaie d'expliquer aux gens qui ont peut-être échappé ce bout-là, puis je me rends compte, moi j'aime l'histoire du Québec, ça m'intéresse d'être au courant, puis je me rends compte que finalement, à part savoir qu'il y en a qui ont été pendus à ce moment-là, au cours de cette rébellion. Entre autres, il y a eu le film de Falardeau, 15 février 1838. Bon. Mais au-delà de ça, on se dit, qu'est-ce qu'on sait véritablement de cette époque-là, du contexte de l'époque? Peut-être, Laurent, nous remettre là-dedans, qu'on explique bien aux gens là, de quoi on parle.
C'est très drôle parce que Gilles rappelait un peu l'importance de la fête des Patriotes, mais les gens se trompent aussi souvent parce que l'ancien nom qu'on donnait à la fête, c'était la fête de la reine, la reine Victoria. On l'a aussi appelée la fête de dollar des ormeaux, du dollar, donc tout ça se confondait. Ouais. Et quand on arrive aux Patriotes, il y a certaines personnes qui disent « Ah oui, c'est une poignée de gens qui se sont révoltés. » Souvenez-vous justement de la parodie qu'avait fait RBO sur l'histoire du Québec. Et on voyait à peu près 4 gars, il y avait de l'air des petits clins qui se battaient contre l'envahisseur britannique, puis ça se finissait là. Donc qu'est-ce qu'on connaît des Patriotes? Bien souvent, on le mélange avec la guerre de la conquête, parce que tout ça est une espèce de gros flou. Et comme je pense que Gilles va être d'accord avec moi là-dessus, c'est très mal enseigné au Québec. Il y a peu de cours d'histoire et ce n'est pas une donnée qui est nécessaire pour les gens pour vivre et pour capitaliser. Donc, l'histoire, c'est souvent mis sous le boisseau. Donc, qu'est-ce qu'on connaît des Patriotes? Ben c'est ça. C'est que des gens qui ont voulu se révolter, faire du Bas-Canada un pays, ça n'a pas marché. Et il y a une figure tutélaire dont on se souvient, c'est Papineau, qui nous a donné la fameuse expression « la tête à Papineau ». Mais tout ça, c'est des lieux communs. Mais au-delà des lieux communs, et comme Gilles vient de le rappeler très bien, il y a des idées qui ont mené, des idées qui venaient des Lumières, des philosophes des Lumières, de cette volonté des peuples de s'autodéterminer qui a mené, parce que le 19e siècle, est-il besoin de le rappeler, c'est le siècle qu'on a appelé le siècle des révolutions. Plusieurs pays, en France, en Angleterre, en Allemagne, se sont révoltés contre des formes d'oppression, que ce soit monarchique, que ce soit impérial, pour justement permettre à ces peuples, dirons-nous, de tenir les leviers du pouvoir. Et ici, c'est pas différent d'ailleurs.
Tu dis Papineau, effectivement, populaire figure parmi les rebelles, mais de Lorimier aussi.
Mais bien sûr, une kyrielle de personnages remarquables, incroyables, des Delorimier, des Jean-Olivier Chénier, des anglophones aussi comme William Henry Scott, les frères Wolfred et Robert Nelson, autant de figures exemplaires, des femmes aussi comme Huguette Chérier, comme Julie Bruneau-Papineau, l'épouse du chef qui elle-même s'est beaucoup impliquée en politique. Bref, un panagérique de personnages absolument inouïs, une belle source d'histoire, d'enseignement, d'édification aussi parce qu'il y a des modèles exemplaires là-dedans. Une lutte qui s'est étendue sur un demi-siècle, ça ne se résume pas à deux petites rébellions en 1837-38. Et c'est d'ailleurs ça que la Journée nationale des Patriotes veut commémorer. Elle ne commémore ni une bataille ou une défaite, ni une pendaison. Elle commémore des assemblées publiques. C'est pour ça que ça se déroule au mois de mai.
C'est ça. Pourquoi ça était ma question. Pourquoi c'est le 20 mai?
Ça a été proclamé en 2002. On a beaucoup discuté du choix de la date.
En tout cas,
et tout le reste.
Du troisième lundi de mai, c'est ça?
Voilà. Ouais. En fait, c'est le lundi précédent, le 25 mai, okay. Le souci technique. Donc, il demeure que cette date-là tombait à point nommé. C'était à la fois le moment où les assemblées publiques commençaient, se mettaient en branle. Suite à l'Angleterre qui refusait de donner gain de cause aux revendications patriotes, Papineau et d'autres, qu'on vient de nommer, lancent un processus d'assemblée publique remarquable, intéressant. Papineau, 15 mai 1837, à Saint-Laurent, près de Montréal, déclare « Puisque la Grande-Bretagne a renié ses engagements envers ses sujets, c'est au peuple, désormais, qu'il appartient de s'occuper de ses affaires. »
C'était vraiment un soulèvement populaire. Il y était combien dans la colonie, là, des Canadiens français? On les appelait Canadiens français à l'époque.
Oui, 550, un peu plus d'un demi-million. Oui, bien fait, hein, c'est une colonie pleinement assumée. On est bien loin des 60 000
on
de la conquête.
On s'était reproduit, oui, c'est ça. Non, mais en peu de temps, on avait fait le bébé.
Alors, à la grande surprise de la Grande-Bretagne, hein, qui s'attendait à ce que ce peuple-là soit lessivé de l'histoire, au contraire, il s'est enraciné et il a profité. Et si bien qu'il développe des ailes, comme l'a dit Laurent, à une époque où la Belgique, toute l'Amérique latine, l'ensemble du monde occidental entre en rébellion, et pourquoi pas nous? Le Québec est totalement en phase avec ce qui se passe ailleurs dans le monde, mouvement libéral, démocratique, d'émancipation républicain, imaginez, un mot qu'on n'ose même plus prononcer.
Là, tu viens de dire le Québec, mais c'est un anachronisme langagier, en fait, ce que tu viens de
parfaitement,
faire.
Parfaitement, je l'assume.
Je me permets de te corriger là-dessus.
Merci, je l'assume parce que si on regarde ce qu'on appelle le Bas-Canada, on reprend trait pour trait les contours du Québec si on accepte l'Abitibi. Tiens, je m'explique. Je m'excuserai aux Abitibiens. Ils ne faisaient pas partie à l'époque du Bas-Canada.
C'est vrai. Ils faisaient partie de quoi?
Alors, ils étaient propriété de la Compagnie du Nord-Ouest, la Hudson Bay Company, la baie du Tson. Ils étaient un territoire concédé à une compagnie privée.
Incroyable, pareil.
Mais en revanche, la vallée du Saint-Laurent, elle, qu'on appelle le Bas-Canada, j'assume, là, puis j'autorise les gens à parler du
mais
Québec.
Mais ça évolue tellement, la province of Québec, le Bas-Canada, la province de Québec, après ça, le Canada. Des fois, c'est compliqué, puis on se dit, pour simplifier, on va juste dire Québec, mais dans les frontières qui changent et évoluent. Mais c'est sûr que la population est concentrée dans la vallée du Saint-Laurent, et éventuellement, au 19e siècle, là, les colonisations vont se faire, et notamment la colonisation du Saguenay. Les Saguenayens ont toujours l'impression, je les aime beaucoup, mais ont toujours l'impression qu'ils sont surgis de terre, puis qui ont toujours été là. C'est plus compliqué que ça. Et ça a pris quand même plusieurs années pour que le territoire du Québec, tel qu'on le connaisse actuellement, se densifie et prenne de l'expansion.
Oui, parce que quand on parle de la fameuse pendaison, je parlais du film de Pierre Falardeau tout à l'heure, 15 février 1839, c'est en février, là.
En fait, il y a eu trois pendaisons. Il y en a eu à 15 décembre 1838. Ouais. Il y a eu deux pendaisons. Il y en a eu ensuite en janvier, 21 janvier 1839. Et ensuite, le 15 février, on en a pendu à nouveau cinq. Au total, 12. Mais ça, c'est la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire, en même temps, il y avait 1450 personnes dans la prison, comme telle, et réparties un peu partout, y compris à Québec et à Sherbrooke. Il y avait plus de 1000 personnes qui étaient sur les routes de l'exil aux États-Unis. C'est sans parler des 86 exilés en Australie, aux Bermudes. Et bref, c'est une vaste opération militaire, la plus importante opération militaire en temps de paix de l'histoire du Canada. Il y avait plus de 12 000 soldats britanniques qui étaient sur le terrain afin de réprimer les troubles.
Il faut quand même rappeler que l'aspect militaire n'est pas neuf au 19e siècle. Rappelons la guerre de la conquête, rappelons l'invasion américaine de 1775, rappelons aussi 1812. Donc, quand on arrive à 1837, ce n'est pas un peuple qui n'a pas connu de guerre. On a souvent pensé qu'après la conquête, il n'y avait plus rien et que tous les gens, tous les patriotes, justement, qui ont émergé du point de vue intellectuel, ben ils sont nés un peu de rien, pas du tout. On a poursuivi l'enseignement, on a formé des gens. Il y a de grandes institutions au Québec qui, après la conquête, ont permis à ces gens de se constituer une culture. Est-il besoin de rappeler le petit séminaire de Québec, par exemple, qui encore aujourd'hui existe, ou le cours classique qu'on appellerait aujourd'hui, qui formait les cadres de la nation. Et aussi, on rappelle que les grandes bibliothèques ont eu des ouvrages fondamentaux. On lisait du Voltaire, du Rousseau, et c'est pas pour rien qu'on parlait de République. On était obsédé par cette République française aussi qui était née à la fin du 18e siècle. Et on parlait de percolation.
Je parlerais davantage de la République américaine. Là.
Oui,
la Révolution française inspirait peu dans la guillotine. La guillotine, couper la tête du roi, c'était pas nécessairement un exemple.
Non, mais ils ont comme reparti ça quasiment sous un autre nom.
Ouais,
après,
on préférait parler de Washington que de Robespierre.
Oui, ouais, c'est sûr. Ici, en tout cas.
Encore aujourd'hui.
Ouais. Mais, tu sais, j'ai retrouvé un texte de Micheline Lachance, l'historienne, qui a écrit beaucoup, entre autres, vous parliez de Julie Papineau tout à l'heure, elle a écrit le roman de Julie Papineau, qui était donc, qui était la conjointe. C'est Amédée Papineau, c'est ça son...
Alors, Amédée, c'est le fils de Julie et de
Louis-Joseph.
Qui était
le fils de Julie, Amédée, et donc, Amédée, le fils aîné, donc, de Louis-Joseph Papineau, s'est intéressé aussi à l'œuvre de son père, de sa mère, et Micheline Lachance rappelle plein de choses intéressantes dans un article qui avait été publié en 2012, si je ne me trompe pas, dans Le Devoir, où elle disait finalement, on a très peu de mémoire. Passer sur, tu sais, combien de gens qui passent au pied du courant, là, qui est la SAQ, là, mais qui va bientôt être le nouvel édifice de Télé-Québec.
Exact.
Ben là, à quelques encablures du fleuve, rappelle Micheline Lachance, le vieil édifice de pierre grise a été le théâtre d'exécutions publiques. Combien de gens se souviennent de ça? Tous les gens qui passent puis qui vont emprunter le pont Jacques-Cartier aujourd'hui, regardez là, parce que c'est là, entre autres, que ça s'est passé. Et qu'est-ce qu'on doit garder de ça? Bien, on va voir ce que les auditeurs en gardent de cet épisode de notre histoire. Notre histoire est jeune, elle est quand même relativement récente. Je pense que c'est important de la maîtriser, en tout cas de faire un effort comme tel. Il y a Carole qui nous appelle, on va lui parler après la pause. Faites comme elle, faites le 514-790-9850. Ça en ferait partout au Québec, 1-866-790-9850. C'est la Journée nationale des Patriotes lundi. Est-ce qu'on connaît assez bien notre histoire, d'après vous? À tout de suite, tout le monde. Alors, on se demande ce matin, est-ce qu'on connaît assez bien notre histoire? On parle de cette Journée nationale des Patriotes. Comme chaque année, c'est l'occasion de prendre congé, mais ça devrait être aussi un petit peu plus que ça. Carole, bonjour. Qu'est-ce que c'est pour vous, cette journée-là?
C'est une journée qui me rappelle que nos ancêtres se sont battus pour essayer de conserver autonomie, liberté, tout ce qui manque au Québec aujourd'hui. Mais c'est surtout aussi une journée qui me rappelle tristement à quel point la jeunesse n'est pas au courant de notre histoire. Puis, tu sais, quand on dit que quand on sait d'où on vient, on sait d'où on s'en va, c'est pas un cliché pour moi. Quand tu penses au rapport Durham, ben ça explique les batailles de Montfort, ça explique comment Ford agit aujourd'hui. Plus ça change, plus c'est pareil. Ben, c'est sûr que c'est bien moins pire aujourd'hui. Le Canada est un petit peu plus hypocrite, là. Mais je pense que si les jeunes étaient plus au courant de l'histoire, ils comprendraient des phénomènes qui se passent aujourd'hui et qui sont basés sur le fait que l'union entre le Québec et le Canada, ça n'a jamais été une union d'amour basée sur le respect. C'est une union forcée qui nous apporte rien. Puis quand ils se disent que la souveraineté, c'est une fermeture plutôt qu'une ouverture sur le monde. Moi, bon sang, j'ai hâte que dans notre fenêtre sur le monde, il n'y ait plus le gros rideau canadien, puis qu'on voit comme fois à travers.
Mon Dieu, que c'est bien, c'est une belle analogie, ça.
Ben, merci beaucoup, mais parce que, puis tu sais, on dirait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ridiculisent le fait de se rappeler en appelant ça de la rancune. Ouais. C'est ridicule. Moi, si je prête 20$ à mon voisin cinq fois, puis qu'il ne me remet jamais, la sixième fois qu'il vient, je vais être assez épaisse pour y reprêter 20$. Et lui, il va être assez épais pour me dire que je suis rancunière. Ça n'a pas rapport avec la rancune.
Mais laissez-moi vous poser une question, si vous permettez, Carole, parce que c'est intéressant. On sent que vous êtes indépendantiste, en tout cas solide, souverainiste.
Oui.
Est-ce que, et souvent dans l'histoire, je lisais plein d'articles, des recherches, des choses qui ont été écrites, et souvent, c'est comme si l'histoire nationale n'appartenait qu'aux indépendantistes. Moi, comme s'ils étaient les seuls garants, un peu comme le Night Watch dans... Ça, c'est ma nouvelle référence. Je suis désolée, là, mais Game of Thrones, là, c'est ma nouvelle référence. C'est un peu ça. Là. C'est comme si c'était les chevaliers du Night Watch puis qu'il fallait qu'ils protègent le fameux mur de l'usurpateur des deux bords. Puis, avez-vous l'impression que c'est ça? Parce que ça, ça fait en sorte que ça limite aussi le fait que les gens se... Parce que c'est vrai qu'il y a eu une espèce de déconfiture du mouvement indépendantiste. Il faut quand même le reconnaître. C'est pas moi qui l'invente. Regardez, quand t'es rendu à être la deuxième opposition, t'as un petit peu de problème. Mais les jeunes peuvent le voir comme... Même troisième, c'est ça?
Troisième.
Eh, hey, mon Dieu, c'est ça. C'est vrai que la deuxième, c'est Québec solidaire. Oh!
Mais ils sont indépendantistes, techniquement.
Oui, c'est ça.
Techniquement.
Techniquement. Mais bon...
Non, ils sont pas.
Bon,
j'ai dit techniquement.
OK, je pars pas ça ce matin. mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si... Les jeunes, ils accrochent peut-être pas à cause de ça?
Ben moi, je pense que si les fédéralistes ont beaucoup de difficultés à s'approprier leur histoire, c'est justement parce qu'elle leur dicte, de ne plus être fédéralistes. Mm-hmm. Comment voulez-vous que, quand une histoire nous montre le chemin vers notre indépendance, puis que vous la voulez pas, l'indépendance, elle vous intéresse plus, cette histoire-là? Ouais.
Merci, Carole, parce que Laurent Turcot, historien, est pas d'accord.
Ben, je suis pas d'accord sur le fait que de penser que travailler en histoire, ça nous mène automatiquement à devenir souverainiste. Ça sous-entend que Philippe Couillard, on en parlait hors onde avec Gilles tout à l'heure, qui connaissait très bien son histoire, comment ça se fait qu'il est pas souverainiste? C'est pas essentiel de connaître l'histoire et d'être souverainiste. L'histoire ne sert pas à servir un propos militant. Ça doit avant tout nous servir à développer un esprit
critique. Je pense pas qu'il était souverainiste, Philippe Couillard.
Et justement, c'est tout à fait mon point.
Mais il était peut-être national. Moi, j'ai...
Alors là, c'est
une autre
chose.
Mon hypothèse, là, c'est si tu vis au Québec, t'as forcément, à moins de vraiment... Remarquez, ça se peut là, qu'il y en a qui sont des fédéralistes solides, mais je pense que si tu vis au Québec, que tu parles français, ça, c'est l'autre donnée, si tu parles français, puis que t'aimes moindrement ta langue, t'as un fond nationaliste. Pas souverainiste, forcément, là, mais au moins légèrement nationaliste. Sinon,
fierté,
je comprends pas.
Il y a une fierté d'être Québécois. Il y a aussi une volonté de porter sur nous l'histoire qui est arrivée au Québec, mais aussi la réalisation de tout ce que nous avons fait.
Mais ça existe-tu, ça, la fierté d'être Québécois encore, avant?
Ben oui, ça existe, sauf que d'un autre côté, c'est qu'on travaille beaucoup sur ce qui ne va pas en ce moment au Québec. J'ai lu un très beau livre de José Boileau, J'ai fait un très beau voyage, où il raconte justement tout ce qui va bien au Québec, et c'est une bouffée d'air frais, carrément, de se dire... Puis il racontait deux hommes à une radio publique qui discutaient justement des congés parentaux. C'est rare d'avoir ça au Québec. C'est quand même une grande réalisation. Nous avons fait des choses. L'histoire permet de voir ça, mais on ne doit pas se fermer des conflits. On parlait de la Journée des Patriotes. L'erreur dans les programmes d'histoire, ça serait de dire, bon, ben ça nous oppose les uns les autres, on n'en parlera pas. Le FLQ, ça nous oppose, on n'en parlera pas. Il faut parler de ce qui fait mal. Il faut parler de ce qui achoppe. Il faut parler de ça parce que ça permet justement d'avoir une plus grande vision.
Gilles, mais j'aimerais juste parler à Pierre avant un auditeur. Bonjour Pierre, comment vous vous inscrivez là, dans la discussion?
Oui, bonjour Isabelle.
Bonjour.
Ben d'abord, je vous félicite. Je félicite votre invité parce qu'il connaît bien son histoire.
Ben, les deux connaissent bien leur histoire. Là. Ben, oui.
Justement, mes propos, c'est à propos de l'histoire. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, entre autres celle du patriote.
Oui.
Parce qu'il y a des membres de notre famille qui ont participé en tant que patriote en 1837.
Comment vous vous appelez?
Ben, c'est des Rochons.
Rochons, bien sûr. Exilés en Australie, oui.
Oui. C'est que c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Puis en même temps, c'est pour réveiller un peu l'histoire au Québec face à l'éducation, aux écoles qui sont pas... c'est jamais des propos utilisés durant l'histoire, ces faits-là, qui sont des faits très, très importants. Mm-hmm. Puis il y a un artiste actuellement au Québec qui s'appelle Michel Giroux, qui a fait le Patriote à 360 degrés pour la première fois. Mm-hmm. Ils en ont fait couler en bronze, dont Pauline Marois et son ami qui en ont acheté. Mm-hmm. Mais pour vous dire comment c'est important, puis je suis allé à Saint-Eustache dimanche dernier, il y a un parc en arrière là, où l'événement s'est produit, puis tout ça. Puis je remarque qu'il y a une belle statue de l'ancien premier ministre du Québec, Paul Sauvé, mais il n'y en a pas du Patriote. Ouais. C'est un fait tellement important que c'est passé au Québec.
Chénier est devant l'église à Saint-Eustache.
Comment tu dis?
Chénier est devant l'église. La statue de Chénier est devant l'église. Effectivement, ses cendres ont été déposées au cimetière. Vous avez quand même une belle plaque en l'honneur de Chénier à Saint-Eustache.
Qui était Chénier?
Jean-Olivier Chénier, médecin de Saint-Eustache, est mort héroïquement à la bataille du 14 décembre 1837. Mort dans une église en flammes. Là, l'acte était beau et remarquable. Et surtout, il est un des chefs patriotes qui est mort aux côtés des siens. C'est ce qui rend une figure emblématique.
OK. Et Rochon, tu disais...
Oui, Rochon, c'est un patriote de Terrebonne qui a été exilé en Australie pour sa participation à la bataille de Terrebonne. C'était en novembre 1838. C'est un homme remarquable. Il a séjourné pendant 8 ans en Australie avant d'arriver, tant bien que mal, à payer son voyage de retour après avoir purgé sa peine. Et il a retrouvé les siens en revenant au Bas-Canada.
Fait qu'il est revenu.
Il est revenu et il a eu des enfants, apparemment.
Évidemment, dont Pierre ici. Ah non, mais c'est fabuleux tout ça, là. Il y a
c'est
plein
une belle histoire.
Tellement belle histoire.
C'est des dizaines et des dizaines de destins absolument émouvants.
Nous avons quelque chose à vous faire écouter. Une parodie, d'ailleurs, qui a été initiée par un de mes invités, Laurent Turcot, prof d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui s'intitule « L'histoire nous le dira ». Vous pouvez le trouver sur la page Facebook ou ici, dans 2 minutes. À tout de suite, tout le monde. Puis n'oubliez pas, appelez-nous pour nous dire est-ce que, d'après vous, on connaît assez bien notre histoire, et en particulier cet épisode de notre histoire quand même assez jeune, celle de la rébellion des Patriotes de 1837-1838. On écoute ça après cette pause. On s'intéresse à la Journée nationale des Patriotes et plus largement à notre histoire du Québec et du Canada français qui a émergé pour devenir donc ce coin francophone encore résistant à l'envahisseur qui parle juste anglais. Là.
Une belle métaphore d'Astérix.
C'est ça, exactement. Connaît-on assez bien notre histoire? C'est la question qu'on se pose ce matin en référence, entre autres, à cette journée-là qui passe pour beaucoup comme étant simplement un congé férié. Puis je pense qu'il faut aller au-delà de ça. On est en compagnie de Laurent Turcot et Gilles Laporte, deux profs d'histoire. Et d'ailleurs, Laurent a créé une espèce de... sur sa page Facebook. Raconte-nous, là,
en fait,
l'histoire nous le dira, c'est quoi? Là,
sur c'est, ça, c'est ma chaîne YouTube, parce que je me dis qu'il faut essayer de populariser l'histoire de toutes les manières possibles et notamment toucher les jeunes qui ne regardent plus la télé.
Voilà.
Et en fait, 70% de mon public, c'est des jeunes. Et j'ai fait une parodie d'un des grands animateurs connus qui s'appelle Stéphane Bern. Et on a imaginé Stéphane Bern qui débarque à Montréal et qui ne connaît pas l'histoire et qui dit des conneries.
Parce que c'est un animateur français qui fait des shows d'histoire.
Ouais.
Peut-être que...
Bon, extrêmement populaire. Ouais. 2 millions de
personnes. Et il a une façon de parler assez...
assez empoulé. Et le comédien que vous allez entendre, c'est un comédien québécois qui est Olivier Morin, qui joue magnifiquement bien. Télérama a dit que sa parodie était quasiment parfaite.
Ah,
donc,
voilà.
C'est vous dire.
Vous avez été tellement nombreux à me demander de vous faire visiter Montréal que j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette aventure.
Merci, mon brave. Montréal, petite cousine orpheline d'Amérique, tiraillée depuis des lustres entre ses racines anglaises et françaises.
Non.
Délaissée jadis par la couronne de France au profit du perfide Albion, un destin tragique dont témoigne ce dicton automobile. Je me souviens. Oui, mais de quoi? Une formule cryptique, mystérieuse, allusion à peine voilée aux mots du poète Luc de Plamondon, rappelant que je me souviens que je suis né sous la rose, mais que j'ai grandi sous le lys. Suivez-moi.
Ben non, c'est pas ça que ça veut dire.
C'est trop bon. Mais c'est fascinant.
Oui, puis après...
C'est tellement Stéphane Bern.
Puis à un moment donné, on va à la prison du Pied-du-Courant, puis on dit la prison du Pied-du-Courant qui est à côté des rapines de la Chine, ce qui est complètement faux. On arrive sur la place d'Armes, et là, le faux, c'était Stéphane Bern qui dit « Nous voici sur la place d'Armes en plein cœur du plateau Mont-Royal. » On dit « Mais qu'est-ce qu'il dit comme connerie? »
On en remettra un petit bout un peu plus tard. On a Nicolas qui est avec nous. Bonjour, Nicolas. Est-ce qu'on connaît assez bien des pans importants de notre histoire, comme celle, par exemple, de cette rébellion des Patriotes de 1837 à 39?
Bonjour Isabelle. Selon moi, ça dépend quelle génération. Malheureusement, les libéraux ont rendu le cours amnésique de l'histoire. Il y a plein de pans. J'ai quelques enfants, j'ai suivi le cours d'histoire et j'ai vu l'évolution où on a perdu beaucoup d'éléments dans le cours d'histoire au niveau du secondaire. Fait que je pense qu'il y a comme une couple de générations qui n'ont pas été mis au courant de certains événements. et qui fait, justement, ça revient un peu à ton argument de si on se connaît, mais on sait où on s'en va.
Ouais.
Ça ne veut pas dire qu'on devient tous des séparatistes parce qu'on a un cours d'histoire, mais au moins on a une tête, on sait pourquoi. Parce que si on regarde le Québec, l'évolution, l'architecture, on sait tout, il y a toutes des raisons pourquoi on est comme ça.
Mm-hmm.
Et si on n'a pas appris l'histoire puis les défis qu'on a relevés, ben on ne sait pas exactement pourquoi.
Exactement. Merci beaucoup, Nicolas. Normand est avec nous. Bonjour, Normand.
Bonjour à vous.
Est-ce qu'on connaît assez notre histoire, d'après vous?
Pas vraiment. Ça nous prendrait un GPS pour revenir à jour. moi, j'ai quelque chose à vous... J'ai un coup de cœur. Moi, j'ai vu ces missions-là. Un reportage, le 400 ans d'histoire, ça s'appelle « Le fleuve et ses grands eaux
mm-hmm. ».
Puis on a ça comme... Sur une bande dessinée, c'est un genre de sable sur un miroir. Vous avez un genre de... qui parle, comme on dit. Et vous avez quand que... Jacques Cartier est arrivé ou quelque chose comme ça. Le rocher passé avait ses deux trous.
Ah ouais.
À cette époque-là. Oui, ouais. À cette époque-là. Puis, jusqu'à
puis
aujourd'hui.
Bientôt, il n'y en aura plus de trous.
Parce non, que... j'en doute pas. C'est mais c'est juste pour vous dire qu'à cette époque-là, les pins blancs, ça prenait 5 hommes pour faire le tour.
Ah ouais.
C'est là que les patriotes sont arrivés. Et après ça, quand les Britanniques sont arrivés, ils ont fait la guerre. Ils sont arrivés 50 bateaux. Pour nous faire la guerre. Il n'y a pas grand monde qui savent ça. Mais si vous allez louer ou chercher sur Internet Le fleuve et ses grands eaux, vous avez tout à aller la voir le soir. C'est bon pour de 7 ans à 77 ans. Oui, Le fleuve et ses grands eaux.
Bon, ben merci. Merci beaucoup de l'information, Normand. Toujours intéressant. Il y a Barb qui m'écrit « On oublie de mentionner que les anglophones dans le Upper Canada se sont révoltés eux aussi contre l'Angleterre à la même époque. Leurs leaders ont été tués ou envoyés en Australie, 150 apparemment en Australie. Et c'était ça a donné le rapport Durham qui a protégé les droits, y compris la langue française et la religion. Peut-être nos spécialistes là-dessus, Gilles.
Il faut le rappeler, tout à fait. Mais on sert souvent ça comme contre-argument. Puisqu'il y a aussi une rébellion dans le Haut-Canada, l'Ontario, ce qui est un fait, on dit que ça ne peut donc pas être nationaliste. Deux nuances. D'abord, ça, on ne parle pas du même ordre de grandeur. Il y a effectivement eu une forte répression en Ontario, mais c'était une opérette de rébellion. En fait, il y a eu une rébellion parce que les régiments anglais étaient d'abord appelés à ce moment-là à intervenir au Québec. Deuxième chose, si on regarde la répression là-bas, elle touche pratiquement seulement des citoyens américains. C'est fabuleux. 86 exilés du Haut-Canada en Australie qui venaient du Haut-Canada, dont 82 Américains. Alors, on l'oublie souvent, ce sont des Américains qui ont mené la rébellion dans le Haut-Canada afin, je vous le donne à devinette, afin d'annexer l'Ontario. L'objectif, à ce moment-là, c'était de prendre sa revanche sur la guerre de 1812 et d'annexer l'Ontario. On convoitait les riches terres du sud de l'Ontario et on souhaitait, des Américains, spontanément, ont cherché à provoquer du désordre afin qu'éventuellement, le Haut-Canada annexe les États-Unis.
Les Américains qui provoquent du désordre, ça, c'est du jamais vu.
Il y avait ça, c'est des aventuriers étranges, ça, mais Washington ne détestait pas cette démarche-là. Revenons à la question qui est très intéressante, c'est qu'en fait, on ne connaît pas assez notre histoire et tous les témoignages vont dans le même sens. C'est une affaire de génération. En fait, je m'oppose à ce que propose Laurent. En fait, il ne faut, en mettant du désordre, en souhaitant aller voir là ce qui ne va pas, on détruit une trame. Notre rapport à l'histoire, il repose sur une trame. Cette trame, elle fut longtemps cléricale. C'était l'histoire des curés et puis des saints martyrs canadiens. Cette trame, elle a été remise en question avec la Révolution tranquille. On l'a remplacée par une trame nationaliste. Et quand on dit ne plus connaître notre histoire, etc., tout le monde s'entend, en fin de compte, on ne connaît plus cette version nationaliste. La version qui mettait la conquête de l'avant, les patriotes de l'avant, qui mettait la lutte contre la conscription de l'avant.
Ouais.
C'est toute cette trame-là qu'on est en train de déconstruire. L'impression, c'est qu'on ne connaît plus notre histoire parce qu'on ne connaît plus cette histoire-là.
Mais, oui, puis il y a aussi la façon qu'on l'enseigne là, plus largement, parce qu'on a eu des réformes scolaires.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas ne pas étudier ces aspects-là. Au contraire, il faut les étudier, mais ne pas étudier ça non plus pour former des nationalistes. Comme on dit depuis tout à l'heure, l'histoire ne sert pas à former des militants, ça sert à former l'esprit critique, comme on l'a entendu.
À former les citoyens.
Je ne m'oppose pas à l'idée qu'il faille justement enseigner ces grands mouvements sociaux, que ce soit la révolte des patriotes, la conquête. Il n'est pas question de déconstruire la chose. Il est question aussi de la regarder de manière critique sans non plus enlever le récit, parce que le récit, il est fondamental. Et on l'oublie souvent, c'est qu'on a tous eu des professeurs d'histoire qui déroulaient des acétates en nous disant « voici vos notes ». Il n'y a rien de plus chiant. Et on est capable d'emporter par le récit, par la parole. Et je pense que certains des programmes en ce moment ont laissé de côté justement la puissance du verbe et la puissance du récit. Et on peut
mais à un moment
parler
donné,
de complexité avec un récit.
Oui, mais vous êtes... Oui, justement. Et le meilleur prof d'histoire, histoire, ben c'est pour ça que vous en êtes deux exceptionnels, c'est que vous, faut la raconter l'histoire pour que ça soit intéressant.
Mais au-delà de la
pédagogie, faut nous raconter cette histoire-là et faut la rendre vivante.
Cette histoire a un sens. Est-ce qu'elle a un sens? En somme, on forme des histoires.
Mais donnons-lui un sens.
Absolument. Mais ce que certains historiens font à l'heure actuelle, c'est qu'ils retirent à l'histoire son sens afin de la ramener à sa pure dimension critique. Ouais. En somme, ils prétendent plus former des historiens que des citoyens. Et c'est ça le drame dans nos écoles.
Mais ça, c'est la réforme scolaire. Je n'étais pas d'accord qu'il fasse ça parce que moi, je voyais. Écoute, tu demandes à une jeune fille de 14 ans, je l'ai encore vécu dernièrement avec mes filles, tu leur demandes quel est ton. C'est quoi le regard critique que tu poses sur la Confédération? À 14 ans, là, excuse-moi, là, mais regarde, dis-y, c'est quoi ça, la Confédération?
C'est une erreur de croire, justement, puis là, c'est que la pédagogie
et puis obligé de se souvenir que c'est en 1867, ça, c'est pas important. Comment c'est pas important? Fait que peut-être que je suis trop vieille, finalement.
Alors, quand on ne propose ne propose pas de récit continu, logique, sensé, on fait une histoire insensée. Et là, à ce moment-là, les gens sont initiés à des personnages, à des destins, à des cas, à des documents. Ils critiquent, ils explorent leur sens critique, ils ne retiennent rien. Et tout ça a l'air d'un tricoté désarticulé. Chacun part avec son petit bagage issu de ses cours d'histoire. Ils envoient de l'histoire. Ils apprennent des choses. Mais cette histoire-là est désormais insensée et surtout, elle n'a plus rien de commun. Ouais. Il n'y a plus de récit commun. Je donne un dernier exemple. On a actuellement un débat sur la laïcité au Québec et on voit Ben oui. Et on entend des témoignages
invoquer c'est vendredi, on a du fun.
La révolution tranquille puis la lutte contre la confession. Écoutez, pour des gens, ça a l'air préhistorique, ça. Quoi, on a sorti l'Église des écoles en 1960. 64.
Ouais,
et regardez, elle sert à ça, l'histoire. Si on parle à une génération qui n'a pas de récit historique, qui n'a pas de trame, elle est incapable de prendre le recul nécessaire pour juger ce qu'on fait en ce moment.
Mais je ne pense pas que les gens soient contre le récit puis la volonté de donner quelque chose aux étudiants. En revanche, il faut faire attention...
Oh, il y a encore des chapelles.
Oui, ça, on est d'accord. Mais il faut faire attention des fois au lieu commun, au truc facile. Et des fois, on redit la même chose qui a été invalidée. Là, on dit souvent, là, on fait appel, par exemple, aux Autochtones,
écoute,
à l'esclavage, au noir. En effet, parce que c'est une histoire, des fois, qu'on ne connaît pas. Puis maintenant, depuis une vingtaine d'années, on la connaît plus. Depuis 20 ans, on travaille sur l'histoire des homosexuels, on travaille sur l'altermondialisme. Ça doit être intégré. Cela dit, on ne doit pas laisser côté le récit, la narrativité et le sens critique et le sens commun qu'on donne.
Regarde ce que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a décidé il n'y a pas longtemps, quand elle a pris le pouvoir. Une des premières choses qu'elle a faites, c'est de dire, et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler que vous écoutez cette émission en direct, d'un territoire autochtone non cédé.
Ça, c'est un grand problème historique sur lequel il faudrait développer.
C'est une anthropologue, là, madame. Madame Plante, elle est diplômée en anthropologie.
Pardon?
Absolument. J'ai des collègues anthropologues qui l'ont interpellée là-dedans en privé. Là. Et puis, elle a dit, oui, ben, vous savez, c'est les contraintes de la politique.
Les contraintes de la politique.
Ah, ben, voilà.
Je pense qu'il n'y a personne qui demandait ça à court terme, là. Qu'on revienne à un territoire autochtone non cédé. Là.
En tout cas, elle ne répète plus. Là.
En tout cas, tu lèves un bout de couverture que tu ne voudrais peut-être pas lever, là, si tu ne veux pas créer des problèmes politiques. Là, parce que je vous rappelle qu'on a déjà eu, il n'y a pas si longtemps, une crise.
Oui.
Bon, crise d'Oka, bien sûr.
Oui, puis on a aussi la commission Vérité et Réconciliation.
Exactement.
Qui est fondamentale dans notre histoire.
Mais tu sais, en même temps, c'est intéressant. On aurait quelqu'un là, des Premières Nations qui serait ici, nous dirait, parce que je parlais à quelqu'un dernièrement là-dessus, qui me disait... Tu sais, dans le Vieux-Montréal, il y a une espèce de petite affiche, là, une plaque, en fait, commémorative qui dit « Ici, un Autochtone a été coupé la tête. »
Maisonneuve a étranglé de ses mains.
Oui, genre, elle a été retirée.
Elle a été retirée.
Je suis allé il y a plus tard que 2 mois. Elle n'existe plus, cette fameuse plaque. Vous la retrouvez dans la parodie que j'ai mise sur ma chaîne YouTube, mais j'ai fait semblant qu'elle était encore là, mais elle n'y est plus. Il y a quand même une sensibilité un peu plus grande aussi qui se développe sur le rapport à l'autre. En revanche, là, on est en train d'entrer dans quelque chose d'autre, dans celui de la mémoire.
Voilà.
La mémoire collective n'est pas l'histoire. L'histoire que l'on fait, c'est basé sur des sources, de manière critique, et on fait attention. La mémoire, c'est ce qu'on veut se rappeler et c'est ce qu'on se donne comme sens commun.
Ouais. Et c'est là où le monde est mêlé.
Ouais.
On va parler à Jean-Luc après la pause. On vous fera écouter un autre petit bout de cette parodie. Il y a Guy Nantel aussi qui a fait des vox pop où on s'en souvient où visiblement on faisait piètre figure.
Ouais,
non.
Là on veut nuancer parce que Guy Nantel faisait exprès de prendre les moins bons. Il y a une construction là-dessus
mais c'est,
sur laquelle.
C'est bon.
Ouais, mais moi je suis pas d'accord avec ce que fait Guy Nantel.
On vient tout de suite après la pause. On va parler à Jean-Luc. Tiens, 514-790-9850 pour nous dire si vous pensez que ça vaut la peine de se souvenir de ce genre de pan de notre histoire. À tout de suite tout le monde. Extrait extrait donc de la chaîne YouTube d'un de mes invités, Laurent Turcot, où on se moque un peu, c'est une parodie de cet historien français qui donc, dans la tête de Laurent...
De cet animateur.
Il n'est pas historien, Stéphane
Bern? Non, il
n'est
pas historien. Ben,
écoute, tu connais bien son histoire, par exemple.
Oui. Ben,
tu sais, l'histoire, ça s'apprend. Comme quoi, ça s'apprend. Tu poses des questions, tu as des réponses. Stéphane Bern, qui a une façon de parler bien à lui, qui est reconnaissable, bien sûr. Allez voir, c'est intéressant, d'ailleurs, l'histoire de France. C'est intéressant. On ne l'enseigne pas du tout dans les écoles, mais on devrait, je veux dire, c'est nos ancêtres. Fait que je trouve qu'il y a comme une obligation là. L'histoire nous le dira, et c'est le bout, justement, où ils sont rendus à nous parler du pied du courant.
Nous voici à quelques sauts de mouton, aux abords des rapides de la Chine, dont les flots tumultueux charriaient jadis la pitoune, ces sortes de colonnes de marbre taillées à même le bois. Rapides qui donnèrent d'ailleurs son nom à cette prison dite du pied du courant. C'est ici qu'ont été capturés, puis pendus, les séditieux patriotes, insoumis et récalcitrants, eux qui pourtant se rassemblaient sous la bannière d'un adorable lutin.
D'un adorable lutin.
Alors, rapides de la Chine ne sont pas à côté de la prison du courant.
Ça
écorche mes oreilles.
Ah oui, Gilles, il a la tête baissée.
Et pourtant, il y a d'excellentes sources. Ouais. Il y a beaucoup d'ouvrages, de connaissances disponibles sur ces sujets-là. Les gens, d'ailleurs, peuvent profiter. Il va tomber des cordes lundi. Alors, profitez-en pour faire votre culture sur les
parodies. C'est une parodie. C'est volontairement faux pour s'amuser. Puis que les gens, justement, on mette en jeu leurs connaissances pour dire, on va tellement vous dire quelque chose de gros que ça va vous choquer, que ça va vous forcer à les consulter. Ben oui, c'est la fameuse, le fameux dessin d'Henri Julien qui a fait beaucoup plus tard.
Oh non, le lutin avec le chapeau.
Ben oui, c'est
ça. Donc,
tout
puis
est
la
confondu. Ben oui, tout est confondu pour le plaisir parce que justement, les gens qui ne connaissent pas leur histoire croisent tout et font des raccourcis à n'en plus finir. Fait que c'est comme pour s'amuser un peu de ça, des gens qui,
c'était pas une carabine, j'ai dit une carabine, mais c'était
un mousquet.
Un mousquet, effectivement. On a Jean-Luc avec nous. Bonjour, Jean-Luc. Est-ce que êtes-vous équipe Gilles Laporte, genre on rit pas de l'histoire des patriotes, ou êtes-vous équipe Laurent Turcot, il faut faire des parodies pour que nos jeunes apprennent leur histoire?
Faut trouver une façon de leur faire apprendre l'histoire, ok? Et je crois, moi, que pour avoir lu le livre anglais, le livre noir du Canada anglais, c'est trois bouquins. Mm-hmm. Okay, qui totalise à peu près une centaine de dollars, que le ministère de l'Éducation devrait obliger la lecture. Tout comme moi, on a été obligé de lire certains livres, Moby Dick et compagnie, là, okay? Mais autant au niveau de l'histoire du Québec, ces trois livres-là relatent l'histoire du Québec à partir de avant même la conquête, okay? Et toutes les entourloupettes, pour ne pas dire les crosses, que le Canada anglais a passé aux Québécois, OK? De quelle façon que les Québécois ont été mis de côté en ce qui a trait aux entreprises, ce qu'on appelait la classe dirigeante, qui n'était que des Anglais, OK, et ainsi de suite. Fait que tout au long de ces trois livres-là, OK, à aller jusque dans les années 2000, toutes les crosses que le Canada anglais a passées.
On vous a
Québec.
Bien compris, Jean-Luc. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'édition puis de ce que le ministère de l'Éducation va accepter de mettre dans les écoles. Je pense pas que ce livre-là se retrouve sur la liste.
C'est fini ce temps-là. C'est-à-dire la trame nationaliste, parce que normalement, Lester fait un procès à charge contre le Canada dans cet ouvrage-là, mais il reprend la trame nationaliste. La trame nationaliste, situons-la, est née au début des années 1960 autour d'un trio remarquable d'historiens, Denis Vaugeois, Jacques Lecourcière, Jean Provencher. Ces gens-là ont pondu une nouvelle façon d'envisager le Québec. Ils ont revalorisé la Nouvelle-France. Ils ont montré le caractère traumatisant de la conquête de 1760. Ils ont rehaussé le rôle des patriotes dans notre... Bref, ils ont fait une histoire qui était moins cléricale, etc. Et plus une histoire fondée sur la lutte canadienne-française. C'est cette trame-là que reprend Lester puis qui vit ses derniers moments de gloire en ce moment.
On a René qui est un guide, justement. Vous êtes un guide à Montréal, René?
Oui, je suis un spécialiste de Montréal.
Oui.
Et moi, je suggérerais une journée commémorative le 26 avril.
Oui,
Parce que le 26 avril, c'est la journée où les Tories ont brûlé le Parlement canadien à Montréal parce que le gouvernement avait accordé des argents pour les patriotes qui avaient été, que leur maison avait brûlé. Et ils l'ont fait surtout pour brûler la peinture de Papineau. Et aussi, ce feu a aussi détruit des milliers de de référence à notre histoire.
Ouais. Ben René, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait là-dessus, mais j'aime ça que ça branche les auditeurs, qu'on parle d'histoire. 26 avril, il faudra s'en prendre l'année prochaine.
Ah ouais, on est toujours là, nous.
Hein? Bon, parfait. Laurent Turcot, prof d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Gilles Laporte. Je rappelle, Gilles est prof d'histoire au cégep du Vieux. Il a écrit, entre autres, « Brève histoire des patriotes ». Allez lire ça en fin de semaine, ils vont mouiller.